Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Gahar, dans le domicile de Marie. Bonjour Marie, merci de nous accueillir.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et je suis éleveuse de chèvres sur la commune de Gahar depuis officiellement un an et demi d'installation, mais ça fait un peu plus que je travaille, ça fait 5 ans que je travaille sur la ferme que j'ai rejoint et sur laquelle je me suis associée.
Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? C'est assez récent. Comment vous en êtes arrivé là? Par quoi vous avez commencé? Voilà.
Et ben mon parcours, j'ai commencé par faire des études en art du spectacle à Rennes, donc rien à voir. Et j'ai jamais vraiment travaillé dans le milieu artistique. J'ai fait un peu d'associatif et puis après j'ai fait plein de petits boulots plutôt alimentaires. Et quand j'avais 23 ans, j'ai fait un gros voyage en bateau à la voile autour du monde. Et pendant ce voyage-là, j'ai été en le mal du territoire, d'un endroit où me poser et où jeter l'ancre. Et du coup, quand je suis revenue, je suis rentrée en Bretagne et j'ai voulu me réinstaller à la campagne. Et dans un premier temps, je me suis installée du côté de Guipel. Et puis le Covid est arrivé et puis là s'est posé la question de me réorienter et de trouver un boulot qui était vraiment en adéquation avec mes convictions écologiques, politiques. Et du coup la question de l'agriculture s'est posée. Et puis, j'ai toujours adoré les animaux. J'ai été très frustrée enfant parce que ma mère était très allergique, donc j'en ai jamais eu à la maison. Il y en avait sur la ferme de mes grands-parents paternels, mais moi, j'en avais pas à la maison. Et du coup, voilà, la question de l'élevage est arrivée. Et puis, chez mes grands-parents maternels dans les Pyrénées, je connaissais des gens à qui on achetait du fromage de chèvre depuis que j'étais gamine, quand j'allais en vacances là-bas. Et je savais qu'ils s'étaient reconvertis assez tard à l'agricole. Et du coup, donc, pendant le confinement, je les ai appelés pour savoir un peu c'était quoi leur parcours et comment ça s'était passé. Et donc, ils m'ont dit, le mieux, c'est que tu viennes voir. On peut te faire une dérogation, parce que c'était le grand moment d'aller aider les agriculteurs. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Et du coup, je suis partie pour 3 semaines de stage. Et en fait, je suis restée 6 mois. Ils m'ont embauchée derrière pour la saison. Et puis, là, ça a été l'évidence, quoi. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Je suis trop con. C'était okay. Ça que je voulais faire. Et voilà, du coup, après, je suis revenue en Bretagne. Je me suis formée. J'ai fait un BPREA, brevet professionnel responsable agricole. Et puis voilà, et puis après je me suis lancée.
Super. Voilà. Et maintenant tout roule
Tout roule, non. C'est
vous êtes heureuse en tout cas dans
tout
votre
roule
métier.
Tout ne roule jamais en agricole. Mais je suis hyper contente de ce que je fais. C'est un métier qui est hyper dur, hyper intense et parfois ingrat, mais qui est en même temps... Et pour moi, le plus beau métier du monde, quoi. Le fait de travailler avec du vivant, que ce soit avec la nature et les aléas que ça peut induire, ou avec mes bêtes, quoi, qui sont mes collègues de tous les jours. C'est quelque chose qui est inestimable. Okay.
Vous parliez notamment des fermes de vos grands-parents. Vous étiez un petit peu frustré de ne pas avoir d'animaux. Est-ce que c'était des endroits, alors peut-être pas dans les Pyrénées, mais vos autres grands-parents plus près de chez vous, des endroits où vous alliez régulièrement, vous aimiez aller pour être justement à côté des animaux?
Alors en fait, moi j'ai grandi, du coup mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, à 5 ans. J'ai grandi principalement avec ma mère en région parisienne, mais toutes les vacances, on allait chez mon père, donc qui lui vivait sur la ferme familiale, et dans le Gers, c'était dans le Gers, donc c'était quand même pas la porte à côté non plus, mais c'est pour ça que il y avait pas de garde alternée une semaine, mais par contre toutes les vacances on était là-bas. Et du coup, enfin, moi, c'était le terrain de jeu. Le terrain de jeu de. C'était tout. C'était la liberté. Parce que du coup, c'était un petit hameau où il y avait que ma famille. Il y avait mon tonton, mon père et mes grands-parents. Donc, la ferme familiale de mes grands-parents que mon tonton a repris après. Et donc, il y avait pas. Eux, c'était pas une ferme d'élevage, mais par contre, c'était les fermes d'antan où il y avait. Les poules, il y avait le cochon, c'était pour de l'autoconsommation, les poules, le cochon, la ferme, économiquement parlant, c'était de la grande culture. Mais par contre, il y avait tous les animaux de la ferme, les lapins et puis les chiens, quoi. Il y avait une dizaine de chiens pour trois familles dans le hameau. Pour moi, c'était le bonheur.
Ouais, c'était ça, les moments de vacances. Avec les animaux.
Avec les animaux et puis aussi avec la réalité du travail de la ferme, parce que depuis gamine, du coup, je bosse sur la ferme de ma tante qui, elle, avait un verger. Et donc, avec ma cousine qui avait le même âge que moi, depuis qu'on a 7 ans, au début, on tenait le stand. Ils avaient un stand de l'autre côté de la ferme, en bord de route, quoi. Donc, c'était une route très passante avec tous les vacanciers. Donc, nous, on tenait le stand toute la journée. On vendait les pêches et les nectarines. Et on jetait les pêches pourries sur les voitures qui s'arrêtait pas. Et après, en grandissant, du coup, on a travaillé à la récolte des pêches et puis après calibré tout ça. Et ça, j'ai fait ça de mes 7 ans jusqu'au décès de mon père, qui est décédé quand j'avais 23 ans. C'est le dernier été où j'ai travaillé sur la ferme. Et voilà, c'était l'été pour se faire un petit peu de sous avant de partir en vacances. Ouais. Voilà.
Okay. Et ces étés-là, à travailler à la ferme, au final, ça vous a toujours plu. Est-ce que, en fait, vous vous êtes jamais dit pourquoi pas en faire mon métier avant d'avoir ce déclic?
Ouais, quand j'ai eu 18 ans, mon tonton partait en retraite. Et du coup, s'est posé la question de qu'est-ce que va devenir la ferme. Et moi, à ce moment-là, j'avais passé mon bac et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais prévu peut-être de passer un an en Écosse pour apprendre l'anglais, mais voilà, j'avais pas d'objectif. Et du coup, je me rappelle de cet été-là où j'ai dit à mon tonton, sinon, moi, je peux la reprendre, la ferme. Et il avait rigolé et balayé ça d'un revers de la main, puisque moi j'étais la parisienne du coup. Ouais, et voilà, ça n'avait jamais été pris au sérieux. Et moi, ça m'avait vraiment traversé l'esprit de manière sincère, quoi, à ce moment-là. Mais après, c'était reparti aussi vite que c'était venu. Et je me suis, jamais posé réellement la question. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai fait ce fameux stage dans les Pyrénées et que j'ai commencé, je me suis demandé pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt, parce que c'était tellement évident d'un seul coup que c'est vrai que ça m'a... Ouais. Mais je pense que j'avais besoin aussi avant de... j'avais cette envie de voyage depuis très jeune aussi, et si j'avais pas fait ce voyage là, je pense que j'aurais pas pu m'installer. Enfin, il a fallu que avant de pouvoir m'installer et du coup m'ancrer et ne plus bouger, parce que c'est quand même ça la réalité du métier, il fallait que j'étanche cette soif d'ailleurs.
Puis que ça fasse son chemin dans sa tête. D'accord. Comment s'appelle ici la ferme, est-ce qu'il y a un nom?
C'est le GAEC de la Reine des Prés, comme la plante.
D'accord.
C'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est du coup mon associé, donc qui était avant associé avec son ex-femme. Mmh. Et c'est une plante qu'ils aimaient beaucoup tous les deux et qui a beaucoup de vertus, notamment en aromathérapie et tout ça. Et c'est vrai que moi, c'était pas un nom qui me plaisait beaucoup, parce que j'avais beaucoup de clients parfois qui me demandaient « Et alors, c'est vous la Reine des Prés ?» Voilà. Donc, en tant que nana, avoir une ferme qui s'appelle la Reine des Prés, ça fait tout de suite un peu cucu quand les gens ne savent pas que c'est une plante. Et que...
ouais.
Mais voilà, ça fait partie des concessions de quand on s'est associé. Il y a des choses que j'ai réussi à changer et puis d'autres non. Donc, voilà.
D'accord. Donc, c'est une ferme avec des chèvres.
Ouais.
Laitière, c'est ça?
Alors, historiquement, mon associé élève des vaches allaitantes, donc pour faire du bœuf. Okay. Et moi, j'ai ramené cet atelier, c'est moi qui ai monté l'atelier chèvre après, du coup. Donc là, on a les deux.
Vous avez chacun vos deux
parties. On a chacun notre atelier et on mutualise à la saison les foins. On fait de la céréale aussi pour nourrir nos animaux. Et un peu de colza et de tournesol pour faire de l'huile.
Voilà. D'accord, ok. Vous avez, enfin vous, vous occupez de combien de chèvres ?
J'ai une cinquantaine de chèvres, une cinquantaine de mères. Et puis les petits qui vont avec mais qui restent pas du coup au moment des naissances je garde une partie des femelles pour le renouvellement qui deviendront les futures laitières et puis après le reste je vends, je garde quelques chevreaux pour engraisser, pour faire de la viande et sinon ça part soit pour de l'éco-pâturage ou chez des particuliers voilà.
D'accord. J'aimerais connaître votre relation avec ces animaux. Voilà, est-ce que chacun a son petit nom ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Chaque bête a... Alors, pour la partie chèvre, en tout cas, ouais, chaque bête a son nom et je les reconnais toutes. J'ai deux races de chèvres différentes et contrairement aux chèvres qu'on a l'habitude de voir, la chèvre soignon qui est toute blanche et où elles se ressemblent toutes, moi, mon troupeau n'est pas du tout uniforme. Chaque bête a une robe différente. Toutes sont uniques et je les reconnais toutes et ouais elles ont toutes leurs petits noms et chaque année c'est une lettre différente et du coup j'essaye de donner des noms en fonction du nom de la mère donc j'ai des lignées avec des thèmes.
Vous avez un exemple comme ça
J'en ai une qui s'appelle Touès. Donc Touès, c'est une plage en Bretagne. Et donc sa fille, c'était l'année des A, et je l'ai appelée Acapulco parce que c'est pour moi ça me rappelle les plages et okay. Voilà.
Ah, c'est rigolo.
ça me permet de savoir du coup quelle bête appartient à qui, à quelle lignée. Et comme il y a un travail de génétique aussi, de choisir les animaux en fonction des caractéristiques de la mère, c'est important.
Ouais. Ok, d'accord. Vous vous en occupez forcément au quotidien. Vous leur apportez, j'imagine, beaucoup d'amour
et autres. Ouais, de nourriture aussi.
Voilà. ces animaux-là, or, on va dire, du travail, ça reste des animaux de travail. J'imagine que voilà, qu'ils vous font aussi du bien. Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces animaux-là, au quotidien ?
Moi, j'ai toujours été fascinée, que ce soit avec mes chèvres, mais globalement avec les animaux, du lien qu'on pouvait avoir avec des animaux qui ne sont pas de la même espèce que nous. Et je trouve que c'est presque plus fort en fait que le lien qu'on peut avoir entre humains. Parce que nous, entre humains, on partage la parole, on se comprend. Du coup, les liens, ils sont faciles à créer. Avec des animaux qui ne parlent pas le même langage que nous, avec qui on n'a pas les mêmes manières de communiquer, je trouve que quand il y a un lien qui se crée, il est démultiplié. Et du coup, ce que ça m'apporte... Je pense que ça m'a structurée, moi, personnellement. Il y avait cette question d'ancrage. Enfin, j'ai toujours beaucoup bougé. J'ai eu du mal à me poser dans ma vie. J'ai toujours eu l'impression d'être sur un fil et d'être quelqu'un d'assez instable. Et du coup, d'un seul coup, de devoir veiller sur un troupeau, d'être un peu la mère là, de tous ces petits, ça m'a permis de m'ancrer, de me poser. Quand il y a des moments où ça ne va pas, où je me sens un peu à nouveau flanchée, et je me dis je dois tenir pour elle. Et du coup, je pense que ça m'aide à me cadrer, à me structurer. Et puis, ce lien quoi, qui est... Elle m'apporte plein de choses.
Au quotidien, plein de bonheur.
Pas que, parce que des fois j'ai envie aussi de les tuer certains matins. Parce que les chefs, ça fait quand même beaucoup de conneries. Ouais. L'impression de faire partie en fait de ce troupeau et d'appartenir à quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué dans la vie. J'avais l'impression d'être un peu à la fois partout et nulle part et d'appartenir à rien. Et du coup, ça m'a... c'est vraiment ancré, quoi.
Est-ce que c'est un peu la même idée qu'avoir une famille pour vous? Enfin...
Ouais, complètement. Ouais. Mais... Oui, bah c'est... Ouais, c'est de cet ordre-là. Après, bien sûr, je fais la différence, mais c'est ça. Je pense que dans cette notion de cadre et de bah du coup quelque chose aussi qui réconforte en fait, enfin qui m'oblige en fait parce que je dois bah, me lever tous les matins pour m'occuper d'elle, pour et en même temps elle me ouais vraiment cette notion de structurer quoi et donc du coup ça, c'est réconfortant enfin, y a quelque chose de j'appartiens à quelque chose qui me dépasse et... ouais. Je sens moins seule.
Vous avez forcément donc comme vous avez dit un troupeau des naissances. Comment ça se passe les naissances? Vous vous occupez peut-être des mères des petits
ouais.
Différemment.
C'est bah c'est toujours un moment hyper émouvant. Alors j'ai pas d'enfants donc j'ai jamais vécu ce que elles je leur demande tous les ans. Je pense que si un jour j'ai des enfants, je pense que ça changera profondément aussi ma relation. Enfin ça apportera quelque chose en plus. Mais du coup bah oui les naissances. Enfin avant les naissances du coup il y a une période de 5 mois, la période de gestation où du coup il faut prendre soin des mères. C'est toujours, enfin, ouais, je trouve que le lien est encore différent à ce moment-là. Il y a vraiment aussi la notion d'avenir, de futur. Enfin, je sais que là, elles sont en train de faire des petits, que dans certaines de ces petites, bah, je vais en sélectionner quelques-unes et qu'avec elles, je vais passer 10, 12, 15 ans peut-être de ma vie quoi, à travailler. Et du coup, il y a vraiment quelque chose d'hyper puissant, je trouve. Et au moment des mises bas, souvent, enfin, c'est hyper émouvant parce qu'il y a des chèvres qui m'attendent vraiment pour mettre bas. Donc, elles peuvent mettre bas quand elles veulent. Il y en a bah, les chèvres les plus timides qui bah, souvent font la nuit en fait quand je suis pas là. Et au contraire, il y en a qui attendent le matin que j'arrive et puis qui mettent bas à ce moment-là. Il y en a qui cherchent le contact, qui vont venir vraiment me chercher parce que bah parce que elles ont mal, qu'elles ont besoin de réconfort, et du coup je suis là avec elles pour les accompagner et aider s'il y a besoin. Et des fois des chèvres qui sont hyper farouches, qui sont des chèvres que je peux pas approcher et qui ont une mise bas compliquée, du coup que je vais venir aider, et ben derrière ça change complètement notre relation. Et du coup ça m'est arrivé d'avoir des chèvres comme ça qui étaient très peureuses, avec qui j'avais pas de lien et qui après une mise bas compliquée où je les ai aidées, ben en fait devenaient des chèvres hyper proches et qui c'est comme si j'avais fait mes preuves. Et je leur avais montré que j'étais digne de confiance. Et du coup, après, elles sont... OK, maintenant c'est bon, on peut avoir une relation, mais je ne suis pas une fille facile. Il a fallu d'abord que tu me montres. Et ça, c'est des moments qui sont... Enfin, chaque année, il y en a, mais je ne m'en lasse jamais. Quoi. C'est inestimable. Encore une fois, dans ce truc de créer du lien avec... une espèce dont on ne partage pas bah, la parole. Enfin, je trouve ça fou de voir comment on peut... bah, se comprendre malgré tout. Et voilà.
Oui, surtout que ce lien dont vous parlez, c'est un lien sur plusieurs années, enfin, qui se transforme. Qui...
Bah, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, et qui évolue complètement. Ouais. Et moi, c'est ça que je trouve bah, le plus beau, quoi. Ces moments charnières de bascule où, bah, en fait, on passe d'un animal qui a un peu peur, qui va être distant et qui est curieux, qui nous observe. Enfin, vraiment, il y a ça chez les chèvres, mais pas que. Enfin, chez tous les animaux, je pense. Mais il y a vraiment des phases d'observation où elles regardent. Et je vois bien aussi que, moi, en fonction de l'humeur dans laquelle je suis, elles ne vont pas interagir de la même manière. Et, donc, c'est vraiment... Enfin, c'est des animaux très intelligents, les chèvres. Et c'est très observateur. Et du coup, de voir comment, effectivement, cette relation, ce lien peut se transformer. Ou des chèvres malades, ça, c'est pareil, ça m'est arrivé. Bah, des chèvres qui sont plutôt sauvages et qui tombent malades. Et du coup, je suis obligée de les soigner tous les jours, d'avoir ces gestes du soin et qui derrière vont devenir beaucoup plus dociles. Et pareil, un truc de ok, on a tissé, hein, elles ont compris qu'à un moment elles étaient en situation de vulnérabilité et que moi j'étais là pour les aider, quoi. Et du coup, derrière, ça crée autre chose.
Vous parlez de certaines chèvres plus dociles, plus agressives. Je pense que chaque chèvre a son comportement à soi. Mmh. Est-ce qu'il y a une question aussi de race qui rentre en compte ou pas forcément, c'est chaque chèvre vraiment un peu aléatoire?
Je sais pas. Moi, oui, il y en a. Donc, j'ai deux races. J'ai la chèvre des fossés, qui est une race locale et rustique, et une autre race qui est l'anglo-nubienne. Et les éleveurs d'anglo-nubienne ont tendance à dire que c'est des races très douces, très dociles. Moi, c'est pas forcément ce que j'observe. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des chèvres que j'ai dû élever au biberon pour des raisons X ou Y. Les mères qui les ont rejetés, qui les acceptaient pas, ou alors des chèvres que j'ai achetées dans d'autres élevages toutes petites à la constitution de mon troupeau. Donc celles-là ont été élevées au biberon et du coup, pour elles, je suis leur mère. Donc là, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment des animaux qui sont très proches, trop proches parfois. Et par contre... sur les chèvres qui sont élevées sous les mères, puisque moi, tous les cabris restent sous leur mère jusqu'au sevrage. Et du coup, en fait, les animaux vont être plus ou moins proches en fonction du comportement de la mère. Si c'est des mères qui sont très proches de moi, elles vont montrer l'exemple aux petits, et donc les petits vont être proches aussi. Par contre, si c'est des mères qui sont un peu farouches, qui les petits vont imiter et vont reprendre les codes et donc se dire ma mère elle a pas forcément hyper confiance, eux pareil, voilà.
C'est plus comportemental que génétique,
ouais.
Alors
enfin en tout cas moi c'est ce que j'observe.
Dans un élevage, on a parlé forcément des naissances, des bons moments, forcément il y a des moments un peu plus compliqués. Une chèvre, ça vit à peu près, vous disiez, 10-15 ans,
on va dire
en temps normal.
Ouais, en liberté, en liberté, ça pourrait vivre beaucoup moins longtemps aussi, parce qu'il y a d'autres prédations. Mais une chèvre a une espérance de vie de 15 ans, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Après, en élevage, c'est souvent beaucoup plus court, parce que dans les élevages industriels, un peu intensifs, généralement, les chèvres, au bout de 6-7 ans, elles sont réformées. Donc, généralement, la réforme, c'est l'abattoir, en fait. Mais après, sur des élevages un peu plus paysans, un peu plus extensifs, avec des races rustiques comme moi, et puis... où on demande beaucoup moins à nos animaux, c'est pas des Formule 1 qu'on pousse à fond, là, on peut avoir des animaux qui restent beaucoup plus longtemps. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas énormément de recul, puisque je suis pas installée depuis très longtemps. Mes plus vieilles chèvres ont 6, 7, 8 ans, par là. Mais oui, dans d'autres élevages similaires, sur des races similaires, je sais qu'il y a des animaux qui peuvent rester jusqu'à 12 ans. Et après, souvent, on les réforme, on décide à un moment que c'est l'heure de la retraite, avant qu'elles meurent, parce que une chèvre qui a mis bas chaque année, qui a fait des petits, forcément au bout d'un moment elle fatigue, elle peut avoir la mamelle abîmée, elle peut faire moins de lait ou avoir des mises bas plus compliquées. Et dans ce cas-là, la fin de carrière. Et en fonction des élevages, ça implique différentes choses.
Ici, s'il y a, alors ça vous est peut-être pas encore arrivé, mais une fin de carrière, elle resterait ici. Est-ce que vous y avez réfléchi peut-être?
Ouais. Alors, ça m'est arrivé sur des chèvres qui avaient notamment par exemple des problèmes de mamelles, que j'ai décidé de réformer. J'ai pas de problème avec le fait de... Je sais qu'il y a des cabris qui vont naître, qui vont être engraissés et que derrière, on va tuer pour faire de la viande. Sur les chèvres avec lesquelles j'ai travaillé, ça, je peux pas imaginer de les envoyer à l'abattoir, en fait. Enfin, pour moi, on a partagé des années. Elles ont été des collègues, en fait. Enfin, on a travaillé ensemble. Il y a vraiment cette notion-là de... Enfin, je travaille avec elles. Et du coup, de les tuer à la fin, ça, c'est pas envisageable. Et c'est pas envisageable non plus de les garder, parce que à un moment, je me retrouverai avec beaucoup trop de chèvres non productives, et malheureusement ça reste quand même une activité avec un but économique. Donc du coup, dans ce cas-là, je leur trouve des familles. Et le fait d'être en race rustique, race menacée, la chef des fossés, y a plein de gens qui sont dans un truc de conservation de la race, qui cherchent ce genre de chèvres. C'est des super débroussailleuses. Elles entretiennent les terrains, les ronces, les orties. Donc, c'est pas difficile. Et puis, comme j'ai peu de chèvres, c'est pas comme si j'avais 20 chèvres à réformer chaque année, quoi. C'est une ou deux. Et donc, j'ai aucun problème pour les placer. Voilà. Okay. Passer une belle retraite, aller brouter d'autres prés.
Ouais. Ok, super. Donc oui, on parlait de moments aussi un petit peu forcément plus compliqués. Est-ce que vous avez été confronté à des pertes d'animaux un peu plus brutales? Comment vous vivez ces choses-là?
Ouais, j'y ai été beaucoup confrontée, et surtout au tout début. Et ça, je pense que c'est un peu inhérent à l'élevage. En fait, au début, on récupère souvent des animaux jeunes ou moins jeunes qui viennent d'autres élevages, donc qui ont tout un écosystème dans lequel ils évoluent. On les déplace, on les met dans un nouvel écosystème, un nouvel environnement, avec des conditions qui sont différentes, avec des parasites, des bactéries qui sont différentes. Et du coup, y a un temps d'adaptation à ce nouveau milieu, et qui peut être assez dur, parce qu'il y a des animaux qui ne s'adaptent pas. Du coup, il y a vraiment une sélection naturelle qui se fait, quoi. Et donc, les premières années, ça fait 6 ans que j'ai eu mes premières chèvres. Et ouais, les premières années, là, ça va mieux. Mais j'ai eu beaucoup de pertes, et sans savoir pourquoi, en fait. Et c'est ça qui est très difficile, quoi. Des animaux qui tombent malades. Les chèvres, c'est des animaux fragiles, en plus. Et on ne sait pas pourquoi, et on ne peut rien faire, et on se sent impuissant. Donc oui, ça fait partie de toute façon de l'élevage. Il y a les morts qu'on choisit, entre guillemets, les moments où on décide que tel ou tel animal va partir, notamment chez les petits, pour faire du cabri, de la viande. Et puis il y a celles qu'on n'a pas choisies, quoi, à cause de maladies ou d'accidents aussi.
Vous m'aviez parlé d'autopsie que vous aviez fait sur les chèvres.
Ouais, c'était sur des chevreaux. Y a une année où c'était avant d'être installée ici, là, d'avoir le bâtiment dans lequel elles sont actuellement. Et donc, en fait, c'était sur un autre lieu de la ferme, et c'était une ancienne stabulation pour vaches. Donc, c'est ouvert aux quatre vents. Et les chèvres, ça n'aime ni l'humidité, ni les courants d'air. Et c'était un hiver particulièrement humide, une saison assez horrible. Et j'avais récupéré cette année-là un nouveau lot pour agrandir mon troupeau. Et donc du coup, là, il y a vraiment eu cet effet de... Moi, il y avait mon troupeau avec son microbisme, son environnement auquel il s'était fait, et un nouveau troupeau qui arrive avec son microbisme à lui. Et puis là, paf, on mélange bouillon de culture. Et en fait, du coup, j'ai eu énormément de problèmes sanitaires, d'ordre sanitaire cette année-là. Et notamment sur les chevreaux, je les ai perdus, mais un par un. Enfin, j'ai une cinquantaine de chevreaux, j'en ai perdu la moitié, quoi. Donc c'était vraiment tous les jours, j'arrivais et puis il y avait un nouveau chevreau malade, et puis je savais qu'à la fin, l'issue, ça serait la même. Et donc, c'était horrible. Et donc au bout d'un moment, j'ai fait faire des autopsies pour savoir ce qui se passait, quoi. Parce que les vétérinaires, nous, dans le coin, ils sont plus axés vaches laitières quand même. Donc la chèvre, ils n'ont pas trop l'habitude, à part 2-3 chefs de compagnie. Donc je me suis sentie très seule. J'avais vraiment tous ces petits là qui mouraient à la pelle. Du coup, un sentiment de culpabilité énorme aussi, parce que moi, je suis censée leur garantir leur bien-être, leur survie, et là, j'en étais pas capable. Et un sentiment de dépossession et de pas savoir ce qui se passait. C'était autopsie, et en fait, c'était effectivement une bactérie que j'avais pas avant et qui est arrivée avec le nouveau troupeau. Et du coup, sur des animaux qui étaient indemnes, enfin ouais, j'ai eu énormément de casse. Du coup, ça m'a permis après d'avoir connaissance de cette bactérie et puis de vacciner en fait. Et depuis que je vaccine, j'ai plus de problèmes.
Donc autopsie quand même très ouais. utile au final.
Ah bah oui ouais. Ouais. Ouais, bah souvent en chèvre de toute façon, enfin il y a peu de symptômes, c'est fulgurant et du coup l'autopsie ça reste un bon.
OK. Ah ouais.
Moralement là cette période là c'est puis vraiment ce sentiment d'impuissance quoi de se dire j'avais même plus envie de me rendre à la ferme le matin quoi, c'est bon alors qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, combien il va y en avoir sur le carreau, enfin Mais après, c'est aussi de l'apprentissage. Enfin, on tâtonne aussi. Et du coup, y a des choses où petit à petit, d'une expérience, on va apprendre et on ne va pas reproduire les mêmes erreurs derrière. Mais c'est ça qui est aussi très difficile à accepter. C'est qu'il y a des morts qui sont dues à la maladie. C'est la faute à pas de chance, entre guillemets. Et puis, il y a des morts qui sont dues à des manquements de notre part en tant qu'éleveur, soit parce qu'on n'a pas donné les conditions idéales, soit parce que parfois on a oublié des choses, il peut y avoir des accidents. Enfin, moi, ça m'est arrivé de retrouver une chèvre pendue au cornadis parce que j'avais oublié de la détacher, quoi. Donc, le cornadis, c'est l'endroit où elles passent leur tête pour aller accéder au foin, quoi. Et du coup, quand je leur distribue la céréale le matin, je les bloque pour pas qu'elles puissent sortir et aller manger les rations des autres. Et puis, une fois, j'avais oublié d'en débloquer une. Et du coup, là, les chèvres, c'est vraiment des gares entre elles. Et donc, les autres, elles se sont acharnées sur elles. Elles lui ont tapé dessus jusqu'à ce que... Enfin, en fait, elle s'est étouffée dans le... Et donc là, t'arrives le soir, tu vois ça, et tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Enfin, et ça, c'est des choses, où ça t'arrive une fois et pas deux, quoi. Après, tu... Mais je pense que c'est le lot de l'élevage, quoi. Il y a aussi des accidents, des choses, mais c'est sûr que quand c'est quand on se dit qu'on aurait pu l'éviter, vraiment cette notion de responsabilité de c'est à moi de veiller sur le troupeau, et quand je suis défaillante par rapport à ça, c'est hyper dur de l'accepter.
Ouais, bien sûr. Comment vous vivez ces moments un peu difficiles? Est-ce que vous avez peur peut-être de la continuité du troupeau, de votre ferme, si tout se passe bien? Est-ce que vous remettez un petit peu en question tout cet environnement-là?
Au début, je pense que notamment là cette année-là, quand j'ai perdu la moitié de mes petits, et il y avait vraiment cette notion de peut-être que je suis pas faite pour ça, quoi. Enfin, je suis allée trop vite, je connais pas assez de choses encore, j'aurais dû plus me former, plus... Mais après, en discutant aussi avec d'autres éleveurs, on m'a rassurée aussi en me disant que ça a été le lot de tout le monde, quoi. Enfin, parce que t'as beau te former tout ce que tu veux, il n'y a pas de meilleure école que le quotidien, et que de toute façon tu verras jamais à l'école tous les cas de figure qui peuvent arriver, que de toute façon l'agriculture c'est s'adapter, c'est vraiment du coup il faut vivre les choses pour pouvoir avancer, et donc ça m'est arrivé des fois d'être découragée, d'avoir envie de baisser les bras, mais je me suis toujours relevée. Et après sur comment je vis vraiment sur la question du deuil, il y a dans le troupeau, il y a la notion d'individu. Il y a chaque chèvre est différente, a son caractère. J'ai une relation particulière avec chaque chèvre. Il y en a avec qui j'ai des relations très fortes, d'autres beaucoup moins. Et puis après, il y a l'entité troupeau, qui est une entité à part entière, quoi, qui est un individu presque à lui seul, quoi, le troupeau dont je fais partie. Et il y a vraiment ce truc de me dire que il y a un individu du troupeau qui est mort, et parfois c'est hyper dur quand c'est une chèvre que j'aime beaucoup, et il faut serrer les dents, et je me dis faut continuer d'avancer, parce que il reste toutes les autres, quoi. Il reste le troupeau dans sa globalité, Et du coup, ouais, c'est se dire, bon, bah, je continue pour les autres.
Donc, on vient de parler des maladies, des morts plutôt accidentelles. Et vous faisiez la différence entre ces morts-là et les morts un peu plus décisionnelles, si on peut dire ça comme ça, de donner la mort à des animaux qui sont en retraite ou les petits chevreaux dont vous parliez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Ben justement, alors sur les animaux en retraite, ça, je pense que je pourrais jamais donner la mort à ces animaux-là parce que voilà, j'ai partagé trop de choses avec eux. Ils m'ont donné et j'estime qu'en échange, ils méritent de juste être tranquilles jusqu'à la fin naturelle. Et pour les chevreaux, ça a été une grosse question parce que quand j'ai commencé ma reconversion, j'étais végétarienne. J'étais végétarienne pendant 8 ans. Et forcément, faire du lait, ça implique la naissance de petits. Et à un moment, il faut faire quelque chose de ces petits. Du coup, au début de mon projet, j'envisageais de faire de la lactation longue. Donc, c'est une pratique qui se développe de plus en plus où, en fait, les chèvres sont des animaux vraiment très laitiers. Et du coup, on peut leur faire une fois un petit et après les traire quotidiennement. Et en fait, elles se tarissent, elles sont quasiment intarissables. On peut les mener en lactation pendant 2, 3, 4, 5 ans pour vraiment des grosses laitières. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'avec la race que j'avais choisie, c'était pas forcément compatible. Ça nécessitait aussi d'être en bitraite, donc traite matin et traite le soir, pour vraiment stimuler la mamelle pour pas qu'elle se tarisse. Et moi, c'était pas ce que j'avais envie. Et puis aussi, à un moment, je me suis dit que élever, c'était ça en fait, c'était maîtriser la reproduction, c'était donner naissance à des animaux qu'on sélectionne parce que la mère a un profil intéressant, parce que elle est laitière, parce que elle a un caractère qui nous plaît, et du coup je me suis dit que voilà, j'allais faire de l'élevage plus classique avec des naissances et puis, je sais pas, à partir de ce moment-là, ça m'est apparu évident du coup que, en fait, une des issues pour ces petits, c'était la viande et du coup, c'était la mort. Pour autant, c'est une question avec laquelle je suis forcément, pas à l'aise. C'est hyper difficile de... Les véganes taclent souvent les éleveurs sur le fait qu'on a des dissonances cognitives parce qu'on dit qu'on aime nos animaux, mais qu'en même temps, on les tue. Et je peux pas dire le contraire. Enfin, oui, on a des dissonances cognitives. Bon, est-ce que les véganes n'en ont aucune? Je suis pas sûre, mais... Et du coup, ouais, c'est toujours un moment qui est difficile et enfin moi souvent avant soit d'emmener les animaux à l'abattoir ou bien de les tuer sur la ferme parce qu'on quand on fait pour de l'autoconsommation on peut les abattre à la ferme souvent je passe une semaine assez compliquée j'y pense beaucoup et c'est quelque chose qui me coûte ouais vraiment c'est quelque chose qui coûte Après, très rapidement, notamment quand on fait des abattages à la ferme, on tue l'animal et puis tout de suite on le suspend, on le saigne et après on enlève la peau en fait et très vite du coup il y a cette bascule qui se fait entre l'animal et la viande et quand ça devient de la viande, il y a vraiment ce truc de je sais pourquoi je le fais quoi. C'est dur parce que parce qu'on a une relation avec nos animaux et que c'est jamais plaisant de donner la mort et en même temps il y a une question d'éthique de qu'est-ce qu'on mange, comment on s'alimente et je me vois pas devenir végane parce que je pense que c'est pas un modèle durable c'est pas un modèle durable dans lequel je crois, en tout cas. Et du coup, bah, y a cette nécessité à un moment de, du coup, de tuer des animaux.
J'ai l'impression que dans ce que vous dites, il y a en tout cas une volonté de pas se voiler la face ou de pas, parce qu'il y a, j'imagine, pas mal d'éleveurs qui amènent leurs animaux à l'abattoir et qui voient pas forcément ce qui se passe. Et là, dans ce que vous racontez, dans le fait de, bah, de tuer vos animaux sur le domaine de la ferme, il y a une confrontation beaucoup plus directe et du coup une volonté, bah, de voir les choses en face aussi, de voir potentiellement l'animal mourir devant ses yeux. Ça doit être quand même une expérience assez intense, quoi, qui doit être dure à vivre. Et voilà, j'ai l'impression que c'est... En tout cas, oui, ça fait partie du cycle, quoi, peut-être, de ce que vous disiez.
Oui, c'est complètement ça, ce cycle, d'un troupeau, où en fait, si on veut qu'il y ait des naissances, il faut qu'il y ait des... Le troupeau n'est pas extensible à l'infini parce que les ressources sont limitées. Enfin, c'est exactement comme pour nous, êtres humains, sur la Terre. Enfin, et donc, du coup, si le troupeau s'agrandit à un endroit, il faut qu'il y ait aussi des animaux qui laissent leur place. Donc, il y a un peu ce côté, en fait, en tant qu'éleveur, on est un peu chef d'orchestre de tout ça. Et après, effectivement, moi, quand je me suis lancée là, dans l'élevage, dans cette activité, il y avait cette envie de, pour ne pas me voiler la face justement, de me dire, bah, moi si je décide qu'il y a des animaux qui doivent mourir sur ma ferme, eh ben, je veux être capable de le voir, je veux être capable de le faire aussi. Au début je m'étais dit ça, j'en suis revenue, je me dis, en fait c'est pas mon métier, c'est pas... Enfin, tuer un animal, c'est un moment qui est... Il faut que ça aille vite, parce que moi, ce que je supporte pas, c'est pas le fait de mettre à mort que je trouve terrible. C'est toute la partie avant où l'animal se rend compte qu'il se passe quelque chose qui est pas normal. Et du coup, il faut que ça soit le plus rapide possible. Et en fait, moi, je me vois pas... juste pour des questions personnelles, de me dire « Non, mais je suis capable de le faire, il faut que je me prouve que je suis capable de le faire », bah du coup, en fait, prendre le risque de, en plus de me rater, d'avoir un animal du coup qui souffre, qui panique, et puis du coup, là, ce serait une mort qui serait complètement irrespectueuse et ratée, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a des morts réussies, mais... Et du coup, mais en tout cas, oui, il y avait cette volonté de... d'être là, déjà pour être là pour les animaux jusqu'au bout, et puis oui, d'y assister. C'est vrai que en fait, la mort aujourd'hui, c'est complètement tabou, c'est caché, que ce soit la mort des humains, enfin voilà, on mène aux vieux dans des EHPAD, et puis tout est caché, et pour les animaux c'est pareil, dans les abattoirs c'est hyper opaque, on sait pas, même en tant qu'éleveur, pour rentrer dans un abattoir et voir ce qui s'y passe, c'est hyper compliqué.
Il n'y a pas de possibilité, on ne vous offre pas là.
Alors je pense qu'il y en a, mais c'est pas, enfin je sais que des fois il y a des groupes de travail d'éleveurs qui peuvent avoir des visites ou des choses comme ça, mais c'est pas individuellement, on peut pas dire bon là je peux assister.
Ouais, c'est pas dans le protocole en tout cas.
Bah non, parce qu'en plus c'est hyper maîtrisé d'un point de vue sanitaire, etc. Donc c'est des usines, hein. Enfin c'est des protocoles industriels dans les abattoirs. Donc après il y a des abattoirs plus ou moins grands, et nous on a la chance d'avoir un petit abattoir de proximité à côté. Mais effectivement, et puis moi j'ai toujours connu, sur la ferme, on tuait les poulets, on tuait le cochon, et du coup c'était quelque chose qui était visible. Alors nous, quand on était enfant, le cochon, on n'assistait pas à la tuerie, mais c'était pire en fait, parce qu'on l'entendait. Donc on n'avait pas le droit de voir le moment de la tuerie, donc on était enfermés dans la maison, on entendait le cochon hurler. Donc en fait, je me rappelle que c'était pour le coup des moments terrorisants, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors que si on avait vu, ça aurait peut-être été moins pire. Mais en tout cas, pour les poulets, les lapins, ça c'était des choses qu'on voyait.
Moi j'avais une petite question. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous étiez végétarienne avant de vous installer. Est-ce que le fait justement de s'installer, de se poser la question sur tout cet environnement, quoi faire des petits et autres, ça vous a justement fait changer d'avis et remanger de la viande, en fait, si
ouais.
j'ai bien compris.
Ouais, ouais, complètement. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est le fait de m'ancrer à nouveau plus dans un, bah, dans un contexte agricole, du coup de redevenir aussi acteur de notre alimentation. Et puis bah du coup de manger en fait de la viande, enfin pour moi c'est complètement différent de manger de la viande qu'on a élevée, qu'on a, enfin où on sait comment ça a été produit, ou bien d'acheter en supermarché bah de la viande en plus pas forcément de bonne qualité parce que pas forcément les moyens, etc. Du coup oui, c'est cette reconversion qui m'a fait revenir en arrière sur le végétarisme.
Oui, c'est souvent, enfin, on voit rarement le chemin inverse, en fait.
Bah et puis en plus faire le chemin inverse pour devenir éleveur, c'est assez radical comme rétropédalage. Mais et puis il y avait aussi cette notion, enfin auquel j'avais même jamais pensé tant que j'étais végétarienne, mais qui est que bah en fait être végétarien ça implique quand même la mort animale, puisque on mange du fromage, on mange des œufs, et que les poules de réforme bah elles vont quand même à l'abattoir, que bah du coup pour faire du fromage comme je le disais il faut faire des petits. Et c'est drôle parce que je viens quand même d'un milieu, enfin voilà, une partie de ma famille était des paysans, donc je suis pas complètement déconnectée, et pour autant en fait c'était quelque chose qui m'avait jamais traversé l'esprit en tant que végétarienne. Et du coup après bah ça apparaissait un peu absurde, et du coup bah c'est là où au moins, enfin avec tout ce que je peux penser du régime vegan ou de l'antispécisme, mais en tout cas il y a une logique dans le fait de ne pas, bah du coup ne pas consommer de viande, mais ne pas non plus consommer les produits des autres animaux, parce que effectivement les produits, même si c'est pas de la viande, impliquent quand même de la mort animale derrière.
Bien sûr.
Chaque année en fait du coup je prends deux cochons, deux ou trois cochons, pour valoriser le petit lait qui est un déchet entre guillemets de la fromagerie. Quand on fait du fromage en fait, quand on égoutte les fromages, bah c'est du petit lait qui sort, et c'est très protéiné, et du coup c'est très bien pour engraisser des cochons. Et ouais, c'est les cochons, c'est c'est des animaux qui sont vraiment bah en fait c'est un regard humain, un cochon quoi. C'est vraiment, en plus c'est hyper intelligent, et du coup c'est la mise à mort des cochons, c'est ouais, c'est vraiment particulier. Ça, c'est quelque chose. C'est plus douloureux pour moi que pour des chevreaux. Et pourtant, les premiers cochons que j'ai eus, c'était des vrais petits chiens. Je les grattais sur le côté, ils se mettaient sur le dos pour qu'on leur gratte le ventre et tout. Donc l'année d'après, j'ai dit, bon, on va arrêter ça tout de suite parce que ça va pas marcher comme ça. Et pour autant, même si je suis restée très distante des cochons après, où nos relations se cantonnait à les nourrir deux fois par jour, et puis une petite gratouille quand même de temps en temps parce qu'ils aiment ça, bah en fait juste de les voir, de les observer, j'ai mon quai de traite qui donne sur le parc des cochons, donc le matin moi je suis à la traite et je les vois faire les cons, courir dans tous les sens, et c'est ah ouais, moi c'est des animaux que j'adore, et en même temps je pourrais pas avoir juste des cochons de compagnie quoi, enfin je peux pas, j'ai pas la place. Il y a quand même une notion où sur une ferme les animaux doivent apporter quelque chose, et du coup ouais, la tuerie des cochons c'est toujours quelque chose d'assez difficile. Et ouais, cette année j'ai le boucher qui était là sur place, et puis bah moi j'avais la larme à l'œil qu'on essaye de faire bonne figure en plus devant le boucher de campagne, qui est souvent tout ce qu'on peut imaginer d'un boucher de campagne. Mais c'est vraiment ce moment en fait, entre le moment où, enfin juste avant qu'il soit mis à mort, où en fait bah du coup j'arrive avec une bétaillère, je les fais rentrer dans une bétaillère, il se passe des choses qui se passent pas d'habitude, et du coup, de sentir leur inquiétude et en même temps ils me suivent, ils y vont dans cette bétaillère sans que j'ai besoin de les... Donc ils me font confiance. Et là, il y a vraiment ce truc qui me met le cœur en miettes de... Bah, là, en fait, je suis en train de les piéger, quoi. Et je joue sur ce lien de confiance qu'on a pour en fait, les emmener vers la mort, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Mais après, il y a encore cette question de... Mais pourquoi je le fais ? Aujourd'hui, en viande, on est autonome, quoi. J'ai pas besoin d'acheter de viande en supermarché.
Alors en général, j'aime bien laisser un petit mot de la fin. Si vous avez quelque chose à dire, souvent des fois c'est des petits mots pour ces animaux, son troupeau, enfin, ce qui vous vient en tête, je vous laisse le micro.
Manger local et venez chez les paysans pour vous nourrir parce que nous aussi on est une espèce en voie de disparition. Et c'est vraiment important de nous soutenir et se fournir directement sur les fermes. C'est pas forcément plus cher que d'acheter en supermarché, même pour la viande. Voilà.
Et ben merci beaucoup Marie.
Merci à vous.
Merci.
Ce projet a sollicité divers acteurs locaux, tous liés via le pacte culturel, notamment les associations Superflu et Radio Soleil 35, la photographe Lise Dua, sans oublier les services de Quénon Marche de Bretagne et les habitants du territoire. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien de divers partenaires, la DRAC de Bretagne, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine et Quénon, Marche de Bretagne. Nous vous remercions tous pour votre écoute.